Micromédia, on prend la parole.
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 L'émission que vous allez écouter a été réalisée par les élèves de 5e du collège Clément Cizor dans le cadre du parcours laïque et citoyen proposé par le conseil départemental de la Haute-Garonne. Elle a été réalisée au terme d'un atelier d'éducation aux médias mené par l'association Médias communs Occitanie et Radio Monpaïs.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les élèves de 5e du collège Clément Cizor et vous écoutez l'émission Micromédia. Aujourd'hui, une émission passionnante sur les thèmes d'Internet et ses bons usages. Au programme, des rubriques diverses et deux invités exceptionnels pour des interviews exclusives. Restez avec nous.
Et pour débuter cette émission pas comme les autres, nous sommes allés interviewer des personnes dans la rue pour connaître leurs habitudes et leurs avis sur les réseaux sociaux. Écoutez tout de suite notre micro-trottoir.
Alors, c'est sur les réseaux sociaux. Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ?
Une petite heure.
Environ 2 heures, je pense.
Très peu de temps, en fait, par rapport à la moyenne des Français. Ma réponse est minimale. Je passe 30 minutes par jour, à peu près.
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ?
Peut-être une heure ou un petit peu moins, ça dépend des jours.
Au moins 2 heures.
Une heure à une heure et demie, voire 2 heures.
Je sais pas, 3-4 heures par jour.
Par jour, je dois passer 1h45 à peu près, 1h3/4.
Une heure minimum.
Combien de temps passez-vous sur Internet ?
2 heures.
2 heures dans la journée.
Beaucoup, entre le bureau et la vie, je sais pas, je dois passer 3-4 heures par jour au minimum.
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ?
Ah, c'est difficile à dire, avec le travail maintenant on n'y passe beaucoup de temps, je dirais un minimum 4 heures par jour, je pense. C'est une moyenne, ouais.
Que pensez-vous des réseaux sociaux ?
Bah écoute, les réseaux sociaux, ça permet de retrouver des amis là que j'ai pas vu de longue date, et puis voilà, ça permet un peu de voir les activités des autres amis en fait, c'est sympa.
Ben, je suis très contente d'avoir des réseaux sociaux, ça me permet de communiquer avec mes amis, enfin de faire plein de choses.
Alors écoutez, je suis très partagé sur les réseaux sociaux. C'est un progrès indéniable technologiquement, je vais dire. Mais après, je vois le revers de la médaille. Je pense qu'il y a un emballement par rapport aux réseaux sociaux. Et je suis très prudent, voilà. Donc je pense que c'est bien, évidemment, ça fait partie d'une évolution. Mais il y a eu d'autres exemples par le passé de choses qui ont évolué parfois un peu trop vite. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout pour vous les jeunes, hein, qui n'avez pas de recul par rapport à la vie, c'est un emballement peut-être un peu dangereux. Voilà ma réponse.
Que pensez-vous des réseaux sociaux ?
Ben, je trouve que c'est bien. Ça fait passer le temps.
Alors je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Twitter, je ne fréquente pas les réseaux sociaux. Je vais sur Internet pour mon travail.
Que pensez-vous des réseaux sociaux ?
J'aime pas trop ça.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que ça sert pas à grand-chose.
C'est bien, mais seulement si c'est utilisé entre guillemets à bon escient.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on peut faire des choses honnêtes et d'autres un petit peu malhonnêtes.
Je trouve que c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Une bonne chose parce qu'on peut parler à ses amis et une mauvaise chose parce qu'on expose trop sa vie dessus.
Que pensez-vous des réseaux sociaux ?
Je trouve que ça influence pas mal les gens et que c'est très 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 présent. Voilà.
Pourquoi ?
Bah, parce qu'on fait tout avec les réseaux sociaux. Quand il y a un truc à dénoncer, on le dénonce sur les réseaux sociaux. Quand on suit un modèle, on le suit sur les réseaux sociaux. Enfin, on met toute notre vie, on met notre McDo, ce qu'on mange, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, on met tout.
Moi, je les utilise peu parce que j'ai un âge où on utilise moins. Je pense que c'est un peu dommage que les jeunes y passent autant de temps. Mais je pense aussi que c'est notre époque et donc on ne peut pas passer à côté.
Je pense que ça peut avoir une très bonne influence comme une très mauvaise. Il faut juste savoir gérer les informations qu'on nous donne, etc.
J'en pense rien. Je ne me sers pas du tout des réseaux sociaux, par contre.
Pourquoi ?
Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas du tout. La vie des autres dans ce domaine-là ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai pas envie d'exposer la mienne non plus.
Que pensez-vous des réseaux sociaux ?
Je pense que ça peut être une très bonne chose. C'est un très bel outil si on sait s'en servir. Comme ça peut être quelque chose de néfaste, notamment chez les jeunes, si on les laisse faire un peu n'importe quoi et si on les laisse approcher pour seulement flâner, regarder, seulement pousser la curiosité, ça peut être cool, mais ça peut être une chose néfaste aussi. Tout dépend de comment on s'en sert, en fait.
Et pourquoi ?
Tout simplement parce que les gens maintenant ne vont pas s'intéresser à l'interaction humaine, ils vont simplement se contenter de regarder leurs écrans et de marcher dans la rue la tête baissée sans regarder autour d'eux. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses très très jolies autour de nous et que le partage de vive voix est quand même beaucoup plus intéressant que derrière un écran.
Est-ce que vous pensez que les RSC aident la démocratie, favorisent la liberté d'expression ?
Ça, c'est un gros pavé là, que tu me poses comme question. Oui, on l'a vu par exemple avec le mouvement MeToo, Balance ton port récemment. Il y a eu un mouvement d'expression sans égal grâce aux réseaux sociaux.
Okay. Bonne question. J'ai jamais fait le lien entre la démocratie et les réseaux sociaux en fait. On va dire oui. On peut dire oui, ça aide un peu la démocratie.
Pensez-vous que les réseaux sociaux favorisent la liberté d'expression ?
Je pense que oui, dans un sens oui. Pourquoi ? Parce que peut-être les gens un peu plus timides, qui n'osent pas parler en vrai, ils vont peut-être un peu plus se lâcher ou se décomplexer face à certains avis. Le partage de masse aussi via les réseaux sociaux permet du coup d'interagir avec beaucoup plus de personnes dans un cercle beaucoup plus élargi à travers le monde entier. Donc je pense que ouais, les opinions peuvent plus facilement se partager. On le voit par rapport à des événements qui se passent dans l'actualité, que l'information est beaucoup plus accessible, donc le partage et la liberté d'opinion s'accroît aussi, je pense.
Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux favorisent les discriminations ?
Oui, justement pour la même réponse que je viens de donner avant. Du coup, vu qu'on est derrière un écran et qu'on n'a pas le regard de l'autre, c'est tellement plus facile de critiquer et de dire des choses sans se rendre compte vraiment du poids des mots. Donc c'est un danger.
Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux favorisent la liberté d'expression ?
Non, au contraire, elles l'abrident.
Pourquoi ?
Parce que c'est une façon de s'exprimer qui est assez rudimentaire, singulière, etc. Enfin, c'est mon avis.
Et les discriminations ?
Oui, ou la discrimination, ou les attaques personnelles maquillées, ou discrimination, oui, ça peut.
Est-ce que les réseaux favorisent la liberté d'expression ?
Oui, je pense que sur les réseaux, peut-être un peu trop quelquefois, mais je pense que c'est un moyen pour les jeunes de s'exprimer. Donc quelquefois c'est bien, quelquefois c'est un peu trop.
Est-ce que les réseaux sociaux favorisent la discrimination ?
Je suis peut-être naïve, mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils favorisent la discrimination. Dans la mesure où tout le monde s'exprime et s'exprime librement, forcément, il y a ce problème qui peut se poser de gens et d'autres qui répondent. Bon, c'est quelquefois un peu trop spontané et pas très réfléchi, bien sûr. Mais la discrimination, comme tout le reste, quelquefois, c'est un peu exagéré sans réflexion, quoi, je pense.
Pensez-vous que les réseaux sociaux favorisent la liberté d'expression ?
Oui. Oui, parce que tout le monde peut dire ce qu'il veut, et du coup, librement et comme il veut, donc voilà.
Et les discriminations ?
Ça permet de discriminer, parce que du coup, comme on met ce qu'on veut, on peut insulter et se moquer de qui on veut comme on veut aussi, donc voilà.
Est-ce que vous pensez que ça apporte la liberté d'expression ?
Oui, aussi, donc dans le cas où c'est bien utilisé, pour la liberté d'expression, c'est bien.
Et ça favorise aussi la discrimination ?
Ça peut, oui, dans certains cas, oui, du harcèlement, oui, discriminatoire, bien sûr.
Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux favorisent la liberté d'expression ?
Je pense que ça peut favoriser la liberté d'expression, ça peut aussi favoriser beaucoup d'autres choses plus négatives. Il faut faire attention.
Et est-ce que les réseaux sociaux favorisent la liberté d'expression ou la discrimination ?
Alors, comme tout le monde peut s'exprimer, je pense qu'il y en a qui expriment des opinions qui sont des opinions contraires à un certain nombre de règles ou de, ou de lois qui nous permettent de vivre en société. Donc c'est ça les dangers de trop de liberté parfois.
Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux favorisent la liberté d'expression ?
Non, pas du tout. Absolument pas. La liberté d'expression, elle est pas... Heureusement qu'elle ne passe pas par les réseaux sociaux. Je pense que la liberté d'expression, elle est partout. Elle est dans la rue, elle est au travail, elle est à la maison. Elle est aussi dans les réseaux sociaux, bien sûr. Mais elle ne passe pas que par les réseaux sociaux. Heureusement, d'ailleurs.
Pensez-vous que les réseaux sociaux favorisent la discrimination ?
Oui, je le pense vraiment. Je pense qu'il y a un danger, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, et je pense que ça fait partie des dérives et qu'il y a un accélérateur à ce niveau-là, ouais. Je le pense vraiment.
De retour sur Radio Mon Pays, vous écoutez Micromédia. Tout de suite, nous vous proposons une petite pause musicale avec une musique de NCS issue de l'univers geek. Restez avec nous, juste après, nous nous retrouverons pour une interview de Delphine Seron, membre du conseil départemental. A tout de suite.
We'll be right back. Et nous revoilà sur 90.1. Vous écoutez Micromédia, on prend la parole. Nous recevons tout de suite Delphine Seron. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? En quoi consiste votre travail ?
Bonjour, je suis Delphine Seron. Je travaille au Conseil départemental de la Haute-Garonne et surtout je suis éducatrice spécialisée dans la prévention et je travaille auprès des adolescents.
Nous avons préparé quelques questions thématiques à tirer au sort. Commençons tout de suite avec notre premier thème.
Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour protéger sa e-réputation ?
C'est à moi de démarrer. Les premiers conseils, déjà, c'est faire attention aux publications qu'on met, que ce soit sur Facebook, sur Snap ou sur Insta. Il y a la question de ce qu'on va dire, de ce qu'on va montrer et aussi ce qu'on montre de soi. Déjà, peut-être la première précaution à prendre, c'est de se créer un avatar, de ne pas donner son nom, son prénom, des choses comme ça, et de se cacher un peu derrière cet avatar.
Est-ce que vous auriez un conseil également, puisqu'on en a parlé, nous, de la e-réputation ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ou ne pas mettre sur Internet, sur les réseaux sociaux ?
Il ne faut pas mettre là où on habite, notre adresse, tout ça. Des informations personnelles sur nous.
Les informations personnelles et aussi, il y a la question de son image. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu postes une photo de toi en train de faire trop n'importe quoi, cette photo, cette image, elle va rester sur Facebook, bien sûr, dans les données, mais même dans vos stories, ça reste. Et il faut savoir que maintenant, les écoles et les employeurs, quand ils recrutent, quand on candidate, ils vont voir les profils Facebook, etc. Donc, s'ils vous voient en train de faire des choses qui ne sont pas correctes, boire trop d'alcool, fumer des joints, des choses comme ça, forcément, ils ne vous embaucheront pas plus tard. Donc, il y a vraiment des choses où il faut faire attention. Sa e-réputation, c'est ça, c'est se préserver. Donc, tu as raison, on ne donne pas des choses trop personnelles et on essaye de ne pas donner une mauvaise image de soi. Parce que ça reste.
Quels sont les avantages des réseaux sociaux ?
Alors ça, je pense que c'est une question auxquelles Delphine peut répondre, mais vous surtout, puisque vous êtes les premiers usagers des réseaux sociaux. Alors c'est quoi pour vous les avantages des réseaux sociaux ?
Qu'on peut parler avec des gens.
Oui, la communication, à mon avis, c'est le premier avantage. Effectivement, on peut être tout le temps en lien avec des gens, des gens qui sont proches, mais aussi des gens qui sont loin. Ça permet de garder le contact avec ses amis, sa famille, même si on ne les voit pas souvent. Ça, c'est la communication, oui, c'est vraiment le premier avantage. Et c'est fabuleux.
Moi et mon téléphone portable.
Du coup, à quoi vous sert ? À quoi te sert ton téléphone portable, toi ?
Moi, appeler mes parents, mes amis, pour leur demander des choses, par exemple.
Alors, toi, tu t'en sers de téléphone ? C'est rare, ça.
Oui.
Et toi, à quoi tu te sers de téléphone ?
Plusieurs choses. Par exemple, ça me permet de jouer à des jeux. Quand je m'ennuie, je vais dessus.
Moi, je l'utilise souvent pour aller sur YouTube, écouter de la musique. Voilà.
À quoi te sert ton téléphone ?
À tout.
Et si demain, vous n'en avez plus de téléphone, comment vous faites ?
Je meurs.
J'achète une console.
Mais tu ne peux pas téléphoner avec ta console.
Mais c'est pas grave, au moins je pourrais jouer.
Jouer en ligne.
Ouais, voilà, c'est ça.
Non. Ouais, j'ai une question. Est-ce que vous éteignez de temps en temps votre téléphone ?
Oui, pour le mettre à charger.
La nuit, vous l'éteignez ?
Oui.
À charger ?
Oui.
L'éteint en cours.
Quand je m'en sers pas, quand on s'en sert pas, quand on est en cours, on l'éteint en général, tout ça.
Sinon, le reste du temps, il est tout le temps ouvert, il est tout le temps allumé, c'est ça ?
Oui.
Mais oui.
En veille.
Ouais.
Quels sont les dangers sur les réseaux sociaux ?
Qu'on peut se faire localiser et qu'on se peut se faire harceler.
Ça rejoint la e-réputation aussi. Hein, le harcèlement avec la irréputation, souvent ça va ensemble parce que les mécanismes sont liés. Il suffit qu'une personne commence à dire du mal de nous et après ça fait boule de neige. Il y en a une deuxième, une troisième, une quatrième et c'est comme ça que ça s'agglutine et qu'on se fait vite harceler et notre réputation peut être aussi ternie par ce phénomène-là de harcèlement.
Vous essayez de vous protéger de ça ? Et auquel cas, comment ?
Ben, je me protège, je sais pas en fait.
Non, mais c'est pas une question facile. C'est pas facile, hein, parce que on repart sur l'idée de l'anonymat, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être contacté par quelqu'un qui va pas avancer avec sa vraie identité. Et des fois, ça peut être ça le problème aussi, entre autres.
Et c'est pour ça que sur les dangers aussi, on peut dire, c'est dans les amis qu'on se fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont des amis qu'on connaît ou des amis qu'on ne connaît pas? Sont des amis donc virtuels. Et parmi tout ce panel d'amis, tout ce nombre d'amis, il y en a qui ne sont pas vraiment nos amis. Et c'est ceux-là qu'il faut réussir à distinguer. Donc sur les dangers, effectivement, je pense qu'il faut trier, sélectionner les gens qu'on accepte dans nos réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir sur Snap 300 abonnés ? Est-ce qu'on connaît 300 personnes comme ça dans la vie ? Est-ce qu'on est obligé de communiquer avec 300 personnes en même temps ? Est-ce que dans ce lot-là, il ne pourrait pas y avoir quelqu'un qui soit mal intentionné et quelqu'un dont on devrait se méfier un petit peu ? Donc ça aussi, dans les amis qu'on accepte, je pense qu'il faut, être vigilant.
Ouais.
Oui.
Pourquoi se déconnecter des réseaux sociaux de temps en temps ?
Et d'abord, est-ce que vous le faites, vous ? Est-ce que de temps en temps, vous faites des détox de réseaux sociaux ? Sans Facebook, sans Snapchat, sans tout ça ?
Oui.
De toi-même ?
Oui.
Ouais.
Bon, des fois, je regarde, ça ne m'intéresse pas forcément. Je vois quelqu'un envoyer un chat, je vais pas forcément aller le lire, comme ça.
Et les autres ?
Non, j'y pense pas.
Est-ce que des fois, est-ce que vous répondez toujours immédiatement ? Est-ce qu'il y a ce rapport très instantané ? On vous envoie un message, vous répondez ?
Ça dépend si j'ai le temps.
Ou si t'es en cours.
Bah oui.
Et est-ce qu'à l'inverse, vous trouvez que des fois, ça peut être un peu trop envahissant, ces messages, le côté très instantané ?
Moi, hier, je faisais mes devoirs. Je voyais que je posais mon téléphone et je voyais mon téléphone qui vibrait à chaque fois, ça faisait... telle personne a envoyé un chat et même pas une seconde après, quelqu'un a répondu comme ça. Du coup, des fois, je le mets en silencieux ou même je l'éteins pour faire mes devoirs, par exemple.
Bah oui, parce que c'est un peu stressant quand on reçoit des messages, on entend les notifications, on se demande mais c'est qui ? Qu'est-ce qu'il dit ? Et si je réponds pas ? Parce qu'il y a des systèmes aussi, par exemple sur Snap, avec les flammes. On essaye d'avoir le plus de flammes possible. Donc ça veut dire que si on répond pas, on va pas avoir notre challenge, on va pas être notifié. Donc c'est dur de résister, c'est dur de ne pas répondre. Même quand on fait ses devoirs, même quand on est parfois sous la douche, on prend son téléphone et parce qu'on n'a pas envie de rater quelque chose. Ça, il faut faire attention aussi, il faut se limiter.
Ça vous parle, ça ? Ça vous arrive des fois ?
Ben oui, tout le temps.
D'avoir peur de rater quelque chose si on n'a pas son téléphone avec soi ?
Non, j'ai pas peur, mais c'est juste que j'aime pas, en fait. Quelqu'un m'envoyait quelque chose et de pas savoir c'est quoi, en fait.
Moi, ça dépend si c'est des amis, ça peut attendre. Par contre, si c'est mes proches, donc mes parents, je vais vouloir répondre. Mais si c'est des amis, ça peut attendre.
Je pense aussi que quand on est parent, on attend de son enfant aussi qu'il nous réponde immédiatement quand on envoie un message. Alors c'est ça aussi qui est paradoxal de la place de l'adulte, c'est que autant des fois on peut vous dire « calme-toi sur le téléphone, ne réponds pas de suite » et quand nous on vous envoie un message, il faut que vous nous répondiez de suite. Donc ça c'est un peu drôle et je crois qu'aussi les adultes doivent réfléchir à ce qu'ils attendent des jeunes par rapport à l'envoi des messages et aux réponses qu'on attend de vous.
Micromédia, on prend la parole.
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 Quels sont les réseaux sociaux préférés des jeunes en 2018 ?
J'ai Snapchat, mais j'utilise que pendant les vacances parce que je trouve que ça a des bons filtres. J'utilise que surtout pour prendre des photos parce que ça fait surtout de belles photos. Pour communiquer, j'utilise mon téléphone.
C'est un réseau social où on peut envoyer des photos ou des messages qui disparaissent au bout de 24 heures.
Qui disparaissent ou pas, parce qu'on peut faire une capture d'écran sur Snapchat. Donc ça disparaît pas vraiment.
Le but du réseau social, c'est justement ça. C'est que ça s'efface.
Oui, oui.
Et c'est de partager aussi.
Et c'est partager aussi. Et alors, c'est très drôle, Snapchat, quand même, je trouve, il faut le dire. Avec les filtres dont tu parlais, avec les oreilles de lapin, avec les langues qui sortent, avec les petites étoiles, tous les effets vocaux. Je trouve que Snapchat, c'est très drôle.
Mmh. Oui.
Quand même. Ouais,
c'est juste qu'on ne l'utilise pas forcément.
Oui.
C'est faux, quoi. Parce que il suffit que tu te mettes un filtre pour qu'on croie que tu es beau ou que tu es belle.
Tout à fait. Je trouve que ta remarque, elle est vraiment très, très intéressante. Parce que sur Snap, on est beau. On se trouve plus beau. Et ça, c'est aussi une technique dans l'image adolescente. Je trouve que c'est très intéressant parce que souvent, on se trouve jamais beau. Voilà, on préférerait avoir les yeux plus clairs, les yeux plus foncés. Et Snapchat vraiment participe à ça. Et ça donne aussi, du coup, envie de s'en servir de plus en plus. Il y a quelque chose, on parlait tout à l'heure sur les dangers. Et bien, dans Snap, je pense que c'est ça le danger, c'est de ne pas se montrer tel que l'on est réellement.
Comment expliquer Instagram à ma grand-mère ?
Impossible.
C'est vrai, c'est pas possible.
C'est pas de son époque. Hein.
Alors là, moi, je me méfierais du troisième âge ultra connecté. Hein, parce qu'en termes de transformation des pratiques, les personnes âgées sont ultra connectées. Alors peut-être pas, ils ont peut-être pas Snapchat ou Instagram, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'ils sont sur les réseaux sociaux et qu'ils sont sur Internet.
Ils ont Skype.
Ouais.
C'est vrai que impossible, c'est un peu extrême, mais c'est assez compliqué parce que j'ai déjà essayé d'expliquer comment marche un téléphone à ma grand-mère et elle n'y arrive pas. Même pas les réseaux sociaux, juste un téléphone, les messages, les appels, tout ça. Elle galère un peu.
Bon, alors on va quand même essayer de se prêter à l'exercice. Qui peut nous expliquer ce qu'est Instagram. Vas-y.
Instagram, c'est un réseau social où on poste des photos ou des chats pour partager des moments avec ses amis ou discuter tout simplement.
Et ce serait quoi la différence avec Facebook ? Parce qu'avec Facebook, tu fais ça aussi.
Facebook, c'est peut-être... déjà, c'est là depuis plus longtemps. Et sur Facebook, on peut jouer à des jeux, c'est un site, une application. Alors qu'Instagram, c'est juste une application où on prend des photos et on parle. Alors que Facebook, c'est un peu plus que ça.
Facebook aussi, c'est plus envahissant. Parce que, par exemple, on peut te localiser, il y a des trucs comme ça.
C'est vrai que Facebook, par exemple, dans les jeux, ils nous demandent, par exemple, des fois une authentification. En fait, pour se reconnaître avec Facebook, alors qu'on ne demande pas ton Instagram sur les jeux.
Peut-on devenir accro aux jeux vidéo ?
Oui, on peut devenir accro aux jeux vidéo, ça dépend. Si on passe 24 heures sur 24 sur un jeu...
Je connais quelqu'un, il est assez âgé, et il joue encore à des jeux vidéo tels que Call of Duty ou d'autres jeux sur ordinateur.
Bah oui, les jeux ne sont pas réservés aux jeunes, tout de même.
Ouais, mais il joue sur ça depuis qu'il est jeune, on va dire.
Ah, d'accord. Donc c'est le fait qu'il soit toujours sur ce jeu. Hein.
Et puis il sort pas souvent. Donc bon.
Ça influe sur ta vie.
Mmh. Et oui, ça influence ta vie et tes connaissances.
Et puis il y en a, c'est leur métier aussi, hein, de jouer.
Ouais, les gamers.
Oui, mais
ouais.
Pas tout le monde. Et la plupart des personnes qui sont accro aux jeux vidéo, je pense pas que c'est leur métier. Alors moi j'aimerais savoir, c'est quoi la limite à votre avis ? À partir de combien d'heures passées par jour, par exemple, on est accro ? Ou du moins on pourrait dire qu'il y a un petit problème.
Je pense que plus de la moitié de la journée, on est accro.
12 heures ?
Ouais, quelque chose de le genre.
Quand tu continues à jouer au jeu tout le temps, enfin tu changes pas de jeu quoi, c'est toujours celui-là que tu joues. Enfin moi je pense que c'est ça.
Et même quand on a du mal à te sortir du jeu, c'est que tu deviens accro quand, par exemple, tu râles quand on te sort du jeu ou quand justement tu veux pas sortir du jeu, je pense que tu deviens accro.
Et alors juste derrière, hein, la question, ça vous est déjà arrivé, vous, de sentir que des fois ça prenait trop de place dans vos vies, les jeux vidéo ?
Oui. Oui, mais j'essaye d'arrêter justement parce que, ben, vu qu'au bout d'un moment, j'ai trop joué aux jeux vidéo, et ben voilà, je deviens énervant, je trouve, je deviens grincheux. Alors que maintenant, vu que j'ai commencé à arrêter à jouer aux jeux vidéo, et ben, je sais pas, je trouve que j'ai plus de patience.
Moi, c'est pareil pour moi, parce qu'en fait, il y a des moments où je n'arrêtais pas de jouer aux jeux vidéo. C'était pas le même jeu vidéo, mais voilà, j'arrêtais pas de jouer aux jeux vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu arrêté de... Comment dire ? J'ai voulu faire une pause, et voilà, je pense que c'est bien mieux, parce que même moi, au bout d'un moment, j'en avais marre de chaque fois faire ci et faire ça.
Je joue tout le temps aux jeux vidéo, même maintenant. Hein. Et quand je regarde après ce que je fais... Il y a mes parents, ils me disent va ranger ta chambre, arrête de jouer. Ben moi, je vais pas leur dire oui, d'accord. Je vais dire oh, je termine ma partie. Et au final, en fait, j'en fais une autre. C'est la technique.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Disons que le temps passe très vite aussi quand on est dans les jeux vidéo, même sur les réseaux sociaux. Hein, c'est un peu le même phénomène. On se laisse absorber. Et on a toujours envie de continuer. Donc la question de se limiter dans le temps, elle se pose vraiment. Et c'est vrai que c'est difficile de sortir de l'écran, parce qu'on a toujours envie d'aller plus loin, d'avoir un meilleur score. C'est vrai que ça peut être un piège, ça, le temps passé.
Oui, c'est vrai. Quand je joue des heures et des heures, j'ai un peu l'impression que ça va faire si longtemps que ça.
Et puis aussi, ça peut entraîner quand tu vois les autres qui jouent en ligne, par exemple, acheter des choses sur le jeu vidéo aussi, ça peut t'entraîner à faire ça.
À faire des dépenses.
Oui, ouais. Surtout qu'il y a des gens malhonnêtes qui te font payer pour avoir certaines choses et qui finalement te les donnent pas. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que les jeux vidéo, c'est surtout là pour s'amuser, pour se divertir. Et là, ça devient un peu n'importe quoi.
À quoi sert la classification PEGI ?
Ben, par exemple, ça sert à éviter à des gens trop jeunes de jouer à certains jeux, mais ça sert absolument à rien parce que
oui.
j'ai déjà quelqu'un d'assez jeune dans ma famille qui joue déjà à des jeux comme Call of Duty alors que c'est PEGI 18.
Et alors justement, quel genre de jeu vous trouvez parfois trop... Bon, Call of Duty, moi je vois un petit peu, vous pouvez l'expliquer ce jeu, comment
c'est quoi le but ?
C'est assez violent parce que le but c'est juste de tuer.
En fait, c'est vous avez des armes, vous êtes armé et vous devez tuer une autre équipe que militaire et vous devez gagner. En tuant des gens, vous rapportez des points et c'est tout.
C'est prenez le point en tuant l'équipe adverse, tuer, toujours ça.
Donc des valeurs, hein, très de partage, d'égalité, de paix, très sympathique.
C'est pacifique.
Voilà.
C'est moderne.
Et alors, ça vous met dans quel état quand on fait une partie de Call of Duty ?
Ben, si on perd,
on
est un peu énervé.
Exactement.
Il y en a, ils sont même allés jusqu'à détruire leur console. Mais
ah oui ?
Après, très pacifique.
Très pacifique, c'est vrai après, que... voilà, quoi. Surtout que ça dépend du tempérament des gens. Après, il y a des personnes qui vont dire rage, hein, qui ne s'énervent pas du tout devant les jeux. Mais il y en a, par exemple, découper son ordinateur avec un katana. Et ben, c'est un petit peu au-delà des limites.
Il paraît qu'en effet, la violence faite au matériel informatique est assez phénoménale. Hein. Moi, j'aimerais savoir du coup, parce que vous me dites, oui, la PEGI, ça sert à rien. Mais là, quand on vous écoute, on se dit, oula, mais quand même, vous pensez qu'elle est justifiée, la PEGI, à moins 18, un 18 sur Call of Duty, par exemple ?
Oui, mais elle n'est pas prise en compte, en fait. Elle est présente et elle doit être là. Il faudrait qu'elle soit plus prise en compte. Par exemple, les vendeurs n'acceptent pas que des jeunes garçons achètent Call of Duty ou achètent GTA V. Parce que là, tout ce qu'ils font les vendeurs, c'est dire « Attention, c'est violent, mais si il est tout seul, le gamin, et qu'il a de l'argent, bah, il se l'achète quand même.
GTA, tu dois avoir la permission de tes parents pour te l'acheter. Call of Duty, je crois aussi. Hein.
Mais moi, je pense la même chose, parce que c'est pas la première fois que j'entends des personnes me dire j'ai joué à GTA, j'ai joué à Call of Duty alors qu'ils avaient 12 ans, peut-être moins. Du coup, je pense que c'est vraiment, comment dire, c'est pas assez surveillé tout ça. On laisse trop de, comment dire, de permission pour des choses aussi violentes alors qu'on n'a pas le droit.
Alors, moi j'ai une petite question parce que vous jouez à la maison. Donc, on a la permission, on n'a pas la permission, mais qui c'est qui donne la permission suprême ?
Les parents.
C'est les parents. Les parents.
Donc, au final, c'est aux parents à faire attention.
Oui.
Et en même temps, quand on a un adolescent qui constamment, on parlait du harcèlement tout à l'heure, vient harceler les parents pour avoir le fameux jeu GTA, Call of Duty, tout ça. À un moment donné, est-ce que les parents, ils vont pas craquer ? Quand on a un ado comme ça, tout le temps qui revient sur à la charge.
Oui, mais on a une excuse, c'est qu'ils doivent être responsables. Hein.
Et puis on dit on va faire attention, non, mais finalement,
mais attention, papa, non. On va faire attention. Bon, je vais quand même tirer une balle de bazooka sur la voiture en face, mais on va faire quand même très attention.
Très attention, hein. Ça va pas être violent. Non.
Donc il y a une responsabilité partagée. Je vous laisse réfléchir.
Parce que c'est pareil. Est-ce que l'interdiction moins 18, ça attise pas votre curiosité ? Est-ce que ça vous donne pas encore plus envie d'y jouer ?
Si, je suppose. C'est comme les parents qui disent ne touche pas à ce pot de chocolat. Ils reviennent, ils sont partis et finalement le pot de chocolat il est vide. C'est, oui. Voilà, c'est l'interdiction quand on est adolescent. L'interdiction, ben, juste le fait de dire non, tu peux pas, ça nous donne encore plus envie de le faire.
Ouais, tu te prends pour un rebelle, je crois. C'est genre, ouais, j'ai cambriolé une banque alors que t'as juste volé une sucette, quoi. C'est pas du tout ça.
Ouais.
Vous avez quelque chose à rajouter, une question à demander ? Vas-y.
Oui, je comprends pas pourquoi tout le monde veut jouer à GTA, etc., alors qu'il y a des jeux bien meilleurs, ou moins violents en tout cas, qui sont, je sais pas, PEGI 7, et qui sont bien.
Parce qu'il y a tout le monde qui joue à ces jeux-là violents.
Oui, justement.
Il y a tous les grands, ils montrent l'exemple et ils disent il est bien ce jeu, on fait comme ça. Comme si.
Ouais, donc on a envie de faire partie de ce groupe, forcément. Voilà.
Tu vois ce que c'est, parce que t'entends des gens dans la cour ouais, je lui ai mis une balle dans la tête, c'était trop bien et tout. Et je suis montée dans un hélicoptère et je me suis crachée dans l'eau. Mais c'était pas grave, parce que c'était trop bien. Bon, je suis mort, mais. Voilà, c'est un jeu.
Ben voilà, et les jeunes, après, qui entendent ça, ils se disent « Oh, ça a l'air trop bien, faut que je l'achète !» Et quand ils l'achètent, ben ils jouent, et souvent, ça déteint sur leur comportement.
Ça, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, comment on distingue le virtuel du réel ?
Ben, justement, quand on est dans la réalité, on a tendance à plus s'énerver pour rien. Plus insulté pour rien parce qu'on insulte derrière les écrans, parce qu'on sait qu'il va rien se passer ensuite. Et dans la réalité, par contre, on va s'emballer plus rapidement, plus facilement. Et là, par contre, il risque de se passer autre chose.
Les jeux vidéo peuvent-ils servir dans l'enseignement ?
Impossible.
C'est pas impossible, hein. Moyennement, il y a des jeux justement qui enseignent, mais c'est pas quoi, des jeux comme Call of Duty. C'est plus des jeux indépendants, gratuits, qui apprennent, je sais pas, les lois en société. Il y en a même qui apprennent les maths, peut-être pas en s'amusant, mais en faisant des aventures. Et même sans faire exprès, on apprend des choses.
Ouais, par exemple Scratch, tu vas pas apprendre à tuer quelqu'un, enfin,
oui,
c'est un peu limite, quoi. Mais après, oui, c'est sûr, il y a des jeux éducatifs.
Alors, moi, je voudrais vous poser la question. Vous voyez évidemment bien ce qu'est le jeu Minecraft.
Oui. Mmh.
Mais est-ce que vous savez qu'il y a eu des initiatives comme ça par des profs d'histoire géo qui ont proposé... Ah, ça te dit quelque chose.
Oui, je sais. Il y a un espèce de mode, on va dire, pour les collèges et écoles, ouais, éducation... Où justement il y a de nouveaux personnages, etc., qui sont faits exprès pour les classes, exprès pour les élèves, pour qu'ils apprennent certaines choses en jouant à un jeu vidéo.
Alors, l'exemple de Minecraft, par exemple, c'est qu'ils ont proposé à des élèves de votre âge de reconstituer brique par brique un château fort de l'époque du Moyen-Âge pour comprendre l'architecture. Et du coup, après, c'était un peu le prétexte, évidemment. À votre avis, est-ce qu'ils ont bien retenu ? Qu'est-ce que ça a pu faire au niveau de l'enseignement ?
C'est plus captivant, on va dire, que ton cours d'histoire où t'as tout le monde qui est endormi sur la table, quoi. Enfin...
Ben, ça dépend du cours d'histoire, hein, mais...
Il n'y en a pas de nom.
Là, non, mais là... Dans... Voilà.
Anonymat.
Anonymat. Et c'est vrai que dans un cours d'histoire où on joue à Minecraft pour reconstituer des châteaux forts ou des cités, c'est vrai que c'est sûr que les jeunes, après, ils vont jouer et ils vont retenir. C'est comme si on construisait la tour Eiffel. Après, on comprend mieux comment elle est reliée au point.
Eh oui. Et puis, dernière petite question là-dessus. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est un escape game ?
Ah, oh, c'est trop bien.
Un escape game, c'est... on est enfermé dans une salle, jeu vidéo ou pas. C'est mieux dans la réalité, mais dans les jeux, c'est tout aussi bien. On est enfermé dans une salle, on a un temps sur une télé. On doit sortir, trouver des indices et arriver à sortir dans le temps imparti. Et c'est juste amusant, je trouve.
Ouais. Ça peut être une histoire aussi. C'est par exemple rassembler tant d'éléments avant que Tatata revienne chez lui sans qu'il ait vu que vous étiez là. Des choses comme ça. Après aussi, c'est pour découvrir ce qui se cache derrière cette pièce, s'il y a des secrets, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, le gars c'était un braconnier, il capturait des animaux, il les tuait illégalement ou des trucs comme ça.
Parce que alors du coup, j'amenais cette question parce qu'on s'en sert de plus en plus comme support pédagogique. Vous pensez que c'est une bonne idée ? T'as des exemples ?
Oui. Par exemple, il y a un escape game qui s'est fait. Il fallait trouver, je crois que c'était une formule, donc fallait quand même s'y connaître un peu, mais une formule mathématique pour résoudre tel ou tel problème. Et les indices étaient cachés dans la pièce, il y avait des passages secrets, et je trouve que c'est assez amusant. C'est, on va dire, ouais, c'est sûr qu'on retient mieux la formule après parce qu'on l'a cherchée. Et on l'a mémorisé pour pouvoir après la noter et la montrer au maître du jeu.
C'est ce qu'on appelle la pédagogie active.
Mmh. Bravo. Est-ce que vous auriez une autre question à rajouter ? Un autre élément de débat ? Vas-y.
Quels sont les dangers des jeux vidéo en ligne ?
Par exemple, il y a ce qu'on appelle des modeurs, ceux qui ont trafiqué leur console ou leur ordinateur pour avoir des... privilège sur les autres joueurs et pouvoir avoir ce qu'on appelle l'adresse IP et les localiser et même pouvoir aller jusqu'à leur couper leur connexion, et ça c'est des risques qui sont à prendre en considération. Compliqué.
Aussi on peut en revenir à l'anonymat, enfin comme on disait par rapport aux réseaux sociaux, on peut devenir ami avec des gens qu'on ne connaît pas et voilà.
On peut donner notre adresse si on est assez naïf, hein, surtout.
Ouais, c'est ça, quand on est petit.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, justement, c'est ça le danger d'être petit, de jouer à des jeux vidéo violents, même sur Minecraft. Hein, on peut, je sais pas, par égard, avoir un ami qu'on pense être du même âge, parce qu'il y a un chat, on n'a pas besoin de parler. Ouais. Et donc, forcément, on pense qu'il est comme nous, qu'il a le même âge ou même moins. Et je sais pas, ah c'est son anniversaire, est-ce que tu veux venir, nana ? Ben voilà, et ben si t'es assez naïf, assez jeune, et ben ah oui, super, je viens. Et finalement, voilà le risque, hein, on peut très bien après se faire...
Timothée, 8 ans, disparu, en jouant à la grâce.
Comme ce qu'on a dit il y a peu de temps, faut encadrer ça. Faut pas laisser les personnes se débrouiller seules. Et comment dire... penser que tout va aller pour le mieux.
Alors, après, il y a les parents.
Il faut faire attention, parce que bon, c'est pas parce qu'on joue aux jeux vidéo qu'on va se faire kidnapper au bout, quoi. Mais évidemment, il y a un principe de précaution à avoir et se dire que tout le monde n'est pas notre ami. Ça, c'est vraiment le premier principe à avoir. Et après, mais... justement, il y a des ateliers comme aujourd'hui qui sont là aussi pour sensibiliser tout le monde. Et vous êtes aujourd'hui les porte-parole de ces messages de prévention. C'est ça qui est très important là dans cette émission de radio aujourd'hui. C'est que c'est vous qui la faites avec vos réflexions, avec votre expérience. Et c'est à vous de transmettre après aux copains ce que vous en pensez.
Après, on est à la radio, donc des fois... on va dire qu'on aggrave la réalité pour justement qu'ils aient, on va dire, entre guillemets, peur, pour qu'ils fassent plus attention. Mais nous, je suis sûre que ça nous est déjà arrivé de pas faire attention. Et maintenant qu'on s'en rend compte, on essaye de protéger un peu ceux qui sont un peu plus naïfs.
C'est la maturité, ça.
Moi, je pense que tu te trompes, parce que, comment dire, on n'aggrave pas les faits, parce que ce qu'on dit, ça s'est passé. Comment dire, quand t'as des millions et des millions de personnes qui jouent à des jeux vidéo, comment dire, il y a forcément une personne ou plus qui aura fait n'importe quoi à l'intérieur.
Mais l'histoire de Timothée ou Litan qui s'était kidnappé en jouant à Minecraft, je suis sûre que c'est quasiment jamais arrivé.
Mais votre camarade, il a le goût de la provoque, vous l'avez remarqué, il a punchline, hein.
Merci beaucoup, Madame Seron, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Micromédia, on prend la parole.
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 Cette émission a été réalisée dans le cadre d'un parcours laïque et citoyen proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Il a été mené en partenariat avec l'association d'éducation populaire Média Commun et Radio Mon País, avec une classe de 5e du collège Clément Cizor à Toulouse, en lien avec leur professeur documentaliste que nous remercions au passage. Vous pouvez retrouver toutes les émissions réalisées dans le cadre des ateliers pédagogiques sur le site de Radio Mon País et sur ondecourte.fr. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Elle a été réalisée par Alexandra Josse pour l'association d'éducation populaire Média Commun Occitanie. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.